L'économie avec ce chiffre inquiétant.
L'économie.
La croissance qui est plutôt molle.
L'économie.
On va changer complètement de sujet, Nathalie. Avec, rappelez-vous, en 2004, on apprenait que les poupées Ken et Barbie allaient divorcer après 43 ans de vie commune sur décision
de Mattel.
Potu Info, un autre regard sur l'actualité.
Ici Radio Potu.
Potu Info, un autre regard sur l'actualité.
15h passées de quelques minutes sur le cadran solaire de Radio Potu 107.5. Vous avez l'habitude, c'est l'heure des Potu Info. Un autre regard sur l'actualité, autre regard par rapport à la majorité des médias, que ce soit la presse écrite, les radios ou les télévisions. Ici, on subit aucune pression des annonceurs puisqu'il n'y a pas de publicité, ni aucune pression des propriétaires de la radio puisqu'il n'y a pas vraiment de propriétaire. On a juste un colonel. Le colonel reste très soft sur la ligne éditoriale, donc on va vous faire pendant une heure un petit tour du monde, différentes informations racontées de manière subjective comme sur les autres médias, mais à la différence qu'ici on assume cette subjectivité.
Et oui, on va refaire au début une petite info internationale, un peu nationale aussi, et puis après on attaquera la deuxième partie de ce Potu Info avec le gros dossier du jour. Le gros dossier du jour, c'est les politiques sécuritaires et
contrôle social.
Oui, contrôle social. Donc là, on a beaucoup de choses à dire puisque la France va tendre de plus en plus vers la dictature, vers une dictature, et laisser tomber un petit peu le côté démocratique qu'on a pu connaître jusqu'à ces dernières années. Donc on en parlera tout à l'heure. On va recommencer par la partie internationale et forcément revenir encore une fois par un petit tour au Moyen-Orient avec Israël et Palestine, puisque l'intervention israélienne est montée encore d'un cran cette nuit. On pensait pas qu'on pouvait encore faire plus, et ben si, ils en sont capables, puisqu'ils sont rentrés alors, à un autre endroit de la bande de Gaza, à l'est cette fois, et puis surtout ils sont rentrés dans la ville de Gaza elle-même, où on a pu noter des affrontements entre des résistants palestiniens et l'armée israélienne. On notera d'ailleurs que dans la nuit, un enfant de 11 ans a été tué par l'armée israélienne, qui n'a pas justifié encore cet assassinat. Peut-être qu'il pensait que ça deviendrait un terroriste, enfin on ne sait pas bien encore. En tout cas, une première réaction internationale digne de ce nom, condamnant l'intervention israélienne, c'est Kofi Annan, donc c'est pas n'importe qui non plus, c'est le secrétaire général des Nations Unies, et il a essayé d'appeler le Conseil de sécurité, qui est une autre instance, pour dire que ben voilà, il fallait que l'ONU prenne position officiellement et condamne cette offensive israélienne. Alors on sait qu'il y a des réactions un petit peu partout assez faibles, mais en Israël, le journal Haaretz, qui est un peu un journal de centre-gauche, un peu à l'image du Monde en France, est intervenu eux aussi dans des éditos pour condamner l'intervention israélienne, en disant que Ehud Olmert, le Premier ministre, faisait un petit peu n'importe quoi parce que la situation devient incontrôlable et on est rentré dans un véritable état de guerre. Donc voilà pour l'info d'aujourd'hui. Le bilan depuis cette offensive israélienne fait état de 35 morts palestiniens. Voilà. Au niveau de l'ONU, il se passe d'autres choses, puisque même si l'ONU donc ne fait pas encore grand-chose sur Israël-Palestine, l'ONU réfléchit sur le trafic illégal d'armes légères, puisque c'est, on le dit pas assez souvent, mais c'est ce trafic-là d'armes légères, c'est-à-dire de fusils, de pistolets, qui est le responsable de plus de morts dans les différents conflits dans le monde, et donc c'est avant tout du trafic illégal. Il y a une conférence des Nations Unies qui avait lieu aujourd'hui pour faire le point, aujourd'hui et hier, pour faire le point sur les actions menées contre ce trafic illégal d'armes légères. Et dans ce cadre-là, les ONG, les organisations non gouvernementales qui se battent contre ces trafics illégaux d'armes légères, ont proposé une charte qui engage un peu les gens qui la signent à ne pas vendre d'armes à des acteurs susceptibles de les revendre illégalement. Et ben ça a été refusé. Alors pourtant c'est quand même un truc un petit peu humaniste de base. Et ben non, les USA, Cuba, la Chine, l'Iran et le Pakistan ont refusé cette charte et ont donc bloqué cette conférence des Nations Unies contre le trafic illégal. Donc le désarmement, que ce soit au niveau des grosses armes de destruction massive nucléaire ou contre le commerce des armes illégales, est plutôt dans une phase de recul.
On continue ce petit tour de monde avant d'aller aux États-Unis. On fait une petite pause par la Grande-Bretagne.
Oui, donc une info un peu rigolote hein, pour calmer le jeu. C'est, nous avons un quasi record mondial puisqu'une Britannique de 63 ans vient d'accoucher d'un petit garçon.
63 ans ?
Voilà, il se porte bien, il a 3 kilos, mais bon... Je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire son éducation, puisque 63 ans, il ne reste pas beaucoup d'espérance de vie. Mais enfin, on lui souhaite quand même longue vie et bonheur à cette dame.
Et du coup, il est né à l'âge de 12 ans.
Du coup, il est né à l'âge de zéro.
D'accord.
Comme tout le monde, tu sais. Oui, un petit tour aux États-Unis. Pour revenir sur l'info qui est un peu à la une de l'actualité depuis hier, c'est soi-disant la CIA aurait déjoué un attentat terroriste qui est en préparation dans un tunnel ferroviaire à New York. L'attentat aurait été prévu pour la fin d'année. Ils ont 8 suspects. Ils pensent avoir trouvé 8 suspects. Ils en ont déjà arrêté 3, pas aux États-Unis, mais à l'étranger. Alors, la première réaction de la CIA, c'est de dire que c'est Al-Qaïda, que ce groupe qui préparerait cet attentat serait lié à Al-Qaïda. Donc déjà, pour l'instant, aucune preuve n'est là pour valider cette théorie. Ensuite, ils auraient chopé ce groupe terroriste à travers un forum sur internet où ils étaient en train de discuter, et là on se dit, putain, il y a un truc qui est quand même pas très crédible. Les mecs qui préparent un attentat terroriste, ils en discutent sur un forum internet, faut quand même être con, quoi. Donc a priori ça ressemble à un canular. Alors les canulars de la CIA, on les connaît, ils en font plein hein, on se rappelle ce qu'ils ont fait en Amérique du Sud dans les années 70, des canulars qui ont souvent des conséquences négatives pour des milliers de personnes qui en subissent les conséquences. Là on voit bien que, enfin, ça ressemble à une manipulation de la CIA pour valider les politiques sécuritaires antiterroristes américaines, parce que cet attentat, cette préparation d'attentat n'a pas l'air très crédible. Bon, après, on n'a peut-être pas toutes les informations, mais ça paraît un petit peu léger comme groupe terroriste et comme manière de les avoir appréhendés. Ça ressemble plus à des petits rigolos ou à une info carrément inventée, mais ça, on ne peut pas en dire plus, que on n'a pas d'infos là-dessus.
D'accord, bref, petit tour international, on va revenir sur la Terre.
Eh ben oui, notre Terre nourricière qui est détruite par des multinationales assez peu respectables. Je vais parler de Monsanto. Alors Monsanto, vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Ils ont commencé en fabriquant des produits chimiques au début du siècle dernier, avec de gros accidents aux États-Unis, des milliers de morts. Ensuite, ils ont fabriqué un truc qui s'appelle l'agent orange, avec un fort taux de concentration de dioxine, produit cancérigène. Et qu'est-ce qu'on faisait de l'agent orange? Je vous le donne en mille.
Des téléphones, non? Orange.
Pas du tout ça. L'agent orange, c'est pas du tout les agents de France Télécom. C'était donc un produit toxique qu'on envoyait avec des bombes sur les soldats vietnamiens pendant la guerre du Vietnam, avec les conséquences sanitaires qui existent encore aujourd'hui, 20 ans après la fin de cette guerre. Donc voilà, donc Monsanto a fait ça, et Monsanto continue à détruire l'environnement, à détruire la biodiversité, mais ils ont changé de créneau, maintenant ils sont sur les OGM, puisqu'ils sont à l'origine de, effectivement, pas à l'origine, mais c'est une des grosses multinationales qui travaillent sur les organismes génétiquement modifiés. Et ben, une bonne nouvelle est arrivée sur nos téléscripteurs, puisque Monsanto poursuivait la Confédération Paysanne, qui est un petit peu à l'origine des faucheurs volontaires, ces groupes d'individus citoyens qui se réunissent et puis qui vont détruire des parcelles d'OGM un peu partout en France. La Confédération Paysanne était poursuivie et devait se faire saisir les comptes en banque, sûrement pour prélever tout l'argent, parce qu'ils ont perdu plusieurs procès contre Monsanto et ils doivent des sommes phénoménales à la multinationale. Sauf que les avocats de la Confédération Paysanne se sont rendus compte que Monsanto France, société anonyme, qui les poursuivait, n'était pas inscrit légalement au registre du commerce des entreprises, c'est-à-dire que cette entreprise n'a aucune légalité en France. Donc ils viennent de bloquer la procédure de saisie de leur compte, et ils se mettent à attaquer toutes les actions en justice que Monsanto a gagnées, parce que Monsanto n'avait pas le droit de les faire, ces actions en justice. Donc ça remonte que déjà que Monsanto et la légalité, ça fait deux. On savait que Monsanto et la protection de l'environnement, ça faisait deux, mais avec la légalité, ça fait deux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On notera quand même que dans l'attaque des anti-OGM contre Monsanto, il y a eu quelques victoires la semaine dernière, alors pas juridiques, mais sur des champs, puisque le week-end dernier, un champ du Lot-et-Garonne a été fauché par des militants des faucheurs volontaires, et que la semaine d'avant, c'était dans le Tarn-et-Garonne, deux champs avaient été fauchés, deux champs d'OGM avaient été fauchés. Donc voilà, c'est plutôt positif ce qui se passe en ce moment sur les OGM. Je voulais revenir sur les OGM un petit peu pour faire quand même un petit point pour rappeler ce que c'est. Alors, si on prend les défenseurs des OGM comme peut l'être l'entreprise Monsanto, pourquoi on a besoin de fabriquer des OGM? Alors l'idée, c'est avant tout, c'est la première justification maintenant, c'est pour les pays pauvres, pour leur permettre de résoudre les problèmes de faim. Hein. Donc de faim et de carence alimentaire. Alors on trafique du riz ou d'autres céréales ou des céréales pour soi-disant les faire qu'elles poussent mieux quand il y a moins de pluie, faire qu'elles contiennent plus de vitamines ou des choses comme ça. Alors ça c'est la première justification des multinationales. Or on se rend compte que c'est pas vrai du tout, c'est impossible d'ailleurs. Un OGM pour un pays pauvre c'est un endettement forcé, infini, puisque actuellement l'agriculture paysanne, que ce soit en France ou dans les pays dits en développement, c'est des paysans qui cultivent leurs champs et qui gardent une partie de la récolte pour replanter la fois d'après, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'acheter de semences, donc au contraire ils arrivent à être autonomes et à pas dépenser d'argent. Ce que veut Monsanto et ses amis, c'est en vendant les OGM obliger ces paysans-là à acheter des semences en permanence. Donc chaque année, ils seront obligés de racheter des semences. Et donc, on se rend bien compte qu'économiquement, ce n'est pas viable du tout pour les pays en développement, puisqu'ils n'ont déjà pas l'argent pour faire des choses un peu plus importantes que racheter des semences. Donc il faut qu'ils restent sur de la semence propre. Donc c'est au contraire, je pense que si les OGM se développaient dans les pays du tiers-monde, on verrait augmenter les risques de famine et les problèmes de malnutrition. Ensuite, ils nous vendent, par exemple, le riz doré. Il y a eu un scandale quand même sur le riz doré, parce que c'était un peu le fer de lance de la bataille des pro-OGM en disant voilà, on a fabriqué du riz qui contient beaucoup plus de vitamine A que le riz normal, et les carences en vitamine A sont assez répandues dans les pays où la faim se fait sentir. Et en fait, quand on regarde le riz qu'ils ont fabriqué, qui est ce riz magique, là, le riz doré, en fait, pour avoir la quantité suffisante de vitamine A, il faut qu'un enfant mange 2 kilos de riz par jour, ce qui paraît assez peu improbable. D'abord, c'est pas facile de manger 2 kilos de riz, et en plus, ils les ont pas. Donc, de toute façon, voilà, c'est une énorme escroquerie. Ensuite, pour casser un peu toujours leur discours sur les OGM, ils ont comme argument de dire que quand on plante des OGM, on utilise moins de produits phytosanitaires comme le sont les désherbants, par exemple, parce qu'ils intègrent soit directement dans la plante le désherbant lui-même, il y a des plantes qui fabriquent des insecticides ou des choses comme ça, soit les plantes sont résistantes à un désherbant particulier, et donc le paysan, qui est obligé pour le coup d'acheter le désherbant associé à l'OGM, met ce désherbant-là, et il en met moins que dans une agriculture classique. Et là, il y a des études qui ont montré que c'est pas vrai, que finalement l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'agriculture OGM est plus importante que pour l'agriculture productiviste classique. On rappelle que finalement la meilleure solution c'est de cultiver bio, ça on en a déjà parlé dans le festival, parce que c'est un peu aussi une des batailles de ce festival des Nuits de la Pierre Bleue. Ensuite, dernier argument, et qui est l'argument que les pro-OGM utilisent depuis quelques mois et qui mettent en avant, c'est l'idée, c'est de faire produire par des plantes génétiquement modifiées des molécules utiles en médecine. En gros, on fait fabriquer des médicaments ou des choses utiles comme l'insuline par des plantes génétiquement modifiées. Alors là, on se dit d'un coup, bah ouais, c'est pas mal, les plantes vont fabriquer des médicaments. Alors il faut savoir que c'est juste une justification des OGM, parce que d'abord, on est loin d'être arrivé à mettre au point ces OGM-là, et puis ces médicaments et ces plantes sont déjà, en général, comme l'insuline par exemple, fabriquées par des bactéries qu'ils font très bien, de manière beaucoup plus efficace que ne peuvent le faire n'importe quelle plante. Donc ça n'a pas non plus d'intérêt au niveau médical, mais les multinationales mettent ça en avant, donc faut pas se faire berner par ça. Et puis le dernier argument qui est le plus ridicule, c'est que, et ça je l'ai lu sur un site de l'agro-industrie pro-OGM, ils nous disent que ça va enrichir le patrimoine végétal parce qu'ils vont créer de nouvelles espèces. Alors c'est intéressant parce que ces gens-là, ils ont fait qu'en 60 ans, 80% des légumes traditionnels ont disparu de France. Et donc leur objectif c'est de faire qu'ils font un maïs transgénique, il y en aura deux, il y aura deux espèces, et le but c'est de vendre que ces deux-là et qu'il n'y ait plus les autres. Donc ils fabriquent certes de nouvelles espèces, mais chaque fois qu'ils en fabriquent une, ils en font disparaître des dizaines d'autres, donc c'est une attaque contre la biodiversité. Puis on rappelle quand même que les risques sanitaires liés aux OGM sont importants, puisqu'on a déjà noté des cas de réactions allergiques. Il faut savoir qu'avec l'agriculture traditionnelle, celle qui fonctionne sur la sélection, on n'a pas de risque. Hein. Les paysans ou les semenciers travaillent sur la sélection. Ils récupèrent les plants qui sont les plus intéressants et ils leur permettent de se reproduire. Donc ils gardent que ces plants-là. Donc il n'y a pas de risque d'allergie. Par contre, quand on fabrique une plante, qu'on lui rajoute des gènes de poisson ou d'êtres humains, non c'est pas vrai, ils l'ont pas fait avec les êtres humains, les gènes de poissons ou autres, et ben là on prend des risques et il y a déjà des cas d'allergie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont pas capables de tester sur l'être humain avant de mettre sur le marché. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les choses en place, ils les vendent et ils regardent ce qui se passe. Et s'il y a des réactions allergiques, et ben ils retirent le produit. C'est déjà arrivé pour une plante OGM aux États-Unis. Et enfin, si les OGM se répandent, c'est la fin de l'éducation biologique, de l'agriculture biologique, puisque les champs ne sont pas étanches et donc il y aurait contamination possible. On sait que le pollen peut voyager sur plusieurs kilomètres. Donc à moins de faire des champs OGM séparés de 3-4 km de désert autour, on ne voit pas comment on pourrait protéger l'agriculture classique, notamment biologique. Et donc ça veut dire que voilà, l'agriculture biologique disparaîtrait d'office si les OGM prenaient de l'ampleur en France et un peu partout dans le monde.
Alors j'en profite pour signaler que la bibliothèque ici sur la place de l'église vient de rouvrir et qu'on peut y admirer une exposition intitulée « Les alternatives à la malbouffe ».
Ah bah voilà, très bien. En plus, associé souvent effectivement à ces OGM ou à cette agriculture productiviste, est associé l'industrie agroalimentaire, donc effectivement la malbouffe.
Alors on change complètement de sujet, on va revenir dans l'éducatif, et on le disait hier, les résultats du bac sont plutôt positifs cette année.
De la bombe de balle, donc au premier tour, 73,9% de réussite, ça s'appelle comme ça. Donc très bonne réussite au bac, 73,9% de réussite. On notera l'impact des luttes anti-CPE, contrat première embauche, quasi nul, puisque finalement...
Si justement, il y a une très bonne réussite grâce à ce mouvement social.
Donc voilà, alors bien sûr notre ministre de l'éducation qui s'appelle Gilles de Robien se félicite de ses résultats. Alors on rappelle que, je ne sais pas pourquoi il s'en félicite, mais il passait pas le bac et il n'est pas prof. Mais bon, il se sent responsable quand même, oui, parce qu'il dit que l'éducation nationale, cette institution, fonctionne mieux depuis un an et grâce à lui. Alors ça, c'est ça qui est bien. Hein. On rappelle que l'année prochaine, lui et son gouvernement ont comme projet de supprimer 8000 postes dans l'éducation nationale. Donc ça peut peut-être fonctionner mieux cette année, sûrement pas grâce à lui, mais l'année prochaine, ça fonctionnera moins bien, et cette fois, grâce à lui, je pense. Donc là, il n'y a pas de souci.
Leur argument, c'est qu'il y a moins d'élèves.
Leur argument, c'est qu'il y a moins de... Alors, ils suppriment avant tout dans le secondaire. Et leur argument, c'est de dire qu'il y a moins d'élèves, mais quand on a des classes de 30, si on passe à des classes de 25, c'est pas mal aussi pour arriver à tenir tous les élèves et à amener tout le monde à un niveau à peu près correct, finalement, ça serait pas mal. Alors, on va parler des choses un peu négatives sur l'éducation, puisque se mettent en place des choses à la rentrée qu'il ne faut pas oublier, notamment l'entrée en apprentissage à partir de 14 ans. Ça commence à la rentrée et ça concernera 15 000 jeunes Français. Alors... dans l'objectif, quand on se glorifie des résultats ces résultats au bac, la politique de faire sortir des élèves le plus tôt possible du système scolaire valide aussi ces résultats de plus en plus positifs au bac, puisque l'éducation nationale on lui demande d'abandonner, d'aider les élèves les plus en difficulté, c'est-à-dire qu'on va les sortir le plus rapidement possible du système classique, voilà, on trouve des alternatives qui sont certes pas bonnes, mais comme ça au moins ils font monter les chiffres. D'ailleurs, on a eu une petite info qui nous donne un peu la différence qui peut exister rien que déjà au niveau du bac entre les trois bacs. Vous savez qu'il y a des bacs généraux, des bacs technologiques et des bacs professionnels. Et les réussites sur l'enseignement supérieur sont très, très disparates suivant le bac qu'on a. Par exemple, il y a 11% des bacheliers d'enseignement généraux, bacheliers généraux qui sortent du supérieur sans diplôme. Quand on vient d'un bac technologique, il y en a 30% qui ratent. Et quand on vient d'un bac professionnel, il y a 61% des étudiants qui ratent. Donc il y a déjà une grosse discrimination au niveau du bac et ils vont encore accentuer cette discrimination en virant les élèves les plus en difficulté avant plutôt que de faire des efforts et de les aider. L'objectif au départ, c'était Jospin qui avait fait ça, je crois, c'est d'amener 80% d'une classe au bac. Ça voulait dire amener 80% des élèves des jeunes en France à un niveau minimum de connaissances en sciences, de connaissances en histoire, de connaissances en philo. Et tout ça est disparu et a été remplacé par un truc qui vise un niveau beaucoup plus bas. C'est ce qu'on appelle le socle commun de connaissances qu'a mis en place Gilles de Robien et qui est un seuil commun de connaissances au niveau du collège. Donc on a laissé tomber cette idée de niveau minimum qui est le bac. Maintenant, on repasse au niveau minimum qui est les connaissances au collège. Donc voilà, il y a une baisse importante de l'éducation depuis que ce gouvernement de droite a pris le pouvoir.
Alors pour beaucoup d'élèves, la fin des examens et la fin de l'année scolaire, c'est souvent la libération. Et pour d'autres,
c'est l'incarcération.
Yes. Avec les enfants scolarisés sans papier.
Alors, on va refaire un bilan de ce qui s'est passé avec les enfants sans papier, puisque vous avez tous pu voir que Nicolas Sarkozy, avec son ami Arnaud Klarsfeld, faisait la une des médias là-dessus. Donc, tout au long de l'année, il y a eu une mobilisation importante du réseau Éducation sans frontières et de parents d'élèves. C'est ça qui est intéressant, c'est que la lutte contre l'immigration, lutter contre les politiques d'immigration n'entraîne pas beaucoup d'adhésion dans la population, mais par contre les parents d'élèves se mobilisent quand le copain de leur fils ou de leur fille ou la copine se présente le risque d'être reconduit à la frontière. Donc il y a une forte mobilisation. Face à cette mobilisation qui a vraiment grossi jusqu'en fin d'année, Nicolas Sarkozy s'est retrouvé à mon avis un peu coincé à faire face à ces gens qui sont pas des militants et qui se mettaient à parler beaucoup d'enfants sans papier et donner une vision un peu négative de sa politique. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de trouver un truc pour sortir de la crise en nommant notamment Arnaud Klarsfeld pour gérer le dossier et en permettant la régularisation d'une partie des enfants sans papier avec des critères volontairement flous comme le degré d'attachement à la France, je ne sais pas comment on peut mesurer ça, l'absence de lien de l'enfant avec son pays d'origine. Alors ça c'est un peu difficile, on a tous des origines, moi j'ai gardé les origines aussi de mes grands-parents, donc voilà, un enfant ne peut pas forcément perdre les liens avec le pays d'origine de ses parents, enfin voilà, des critères qui sont flous, mais qui vont permettre quand même de sauver de la déportation une partie des enfants. Alors le mot déportation n'est pas utilisé gratuitement, c'est quand on voit la mobilisation de parents d'élèves qui se mettent à accueillir des enfants sans papier, alors que je vous rappelle, enfin, c'est hors la loi, il y a une vraie résistance qui commence à ressembler à la résistance pendant la dernière guerre où des familles étaient prêtes à accueillir des juifs pour pas que les Allemands les enlèvent. Et ben là c'est un peu ça qui se fait, c'est des familles qui sont prêtes à risquer la prison et les amendes en cachant chez eux des enfants sans papier, des copains de leurs enfants. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas bien les chiffres du nombre de familles qui va pouvoir être régularisées, mais sous la pression, ça sera plus important que ce que Sarkozy voulait, mais ça sera moins important naturellement que ce qu'on pourrait rêver, c'est-à-dire finalement tout le monde. Il doit y avoir plusieurs milliers de familles concernées, le chiffre n'est pas énorme naturellement, mais c'est toujours des cas un peu difficiles, des gens qui se retrouvent à être renvoyés en Tchétchénie, dans une zone de guerre, ou en Russie en étant tchétchène, hein, puisqu'on a des cas comme ça, où on sait d'avance que quand ils débarqueront de l'avion, ils seront arrêtés par la police russe ou tchétchène, et on leur souhaite bien du courage d'être arrêtés par la police russe ou tchétchène. Donc voilà, la mobilisation du réseau Éducation sans frontières a pas mal marché cette année, ça va continuer, il faudra faire attention et bien surveiller les politiques d'immigration du petit Nicolas.
Alors pour chiffrer un peu tout ça, comme tu le disais, Nicolas Sarkozy a voulu rassurer un petit peu l'opinion publique face à la mobilisation du réseau Éducation sans frontières. Il a annoncé dans un premier temps la régularisation de 700 familles. Donc le réseau Éducation sans frontières a réagi en rappelant que eux-mêmes, c'est-à-dire seulement les sans-papiers qui étaient déclarés, ils en avaient dénombré près de 100 000. Ça a évolué en début de semaine avec l'interview du chef de la police dans Le Monde qui annonçait des régularisations de milliers de familles sans citer de chiffres précis. Et cette annonce a été démentie par Nicolas Sarkozy lui-même le lendemain dans Le Monde. Et Nicolas Sarkozy essaye toujours de faire une annonce médiatique plutôt dans un sens positif. Il arrive bien à faire cette fausse annonce, comme on a pu le voir sur la double peine, où beaucoup de gens ont cru que la double peine avait été supprimée par Nicolas Sarkozy. Mais on le verra à 16h tout à l'heure dans une petite interview, qu'il y a encore plein de gens, notamment une personne dont on parlera à 16h, qui sont victimes de la double peine. Et puis, comme vous avez pu le constater, on a prononcé le nom de Nicolas Sarkozy pour la première fois depuis 3 jours des Potu Info, et on va même l'entendre maintenant.
En édition spéciale.
Moi, je suis ministre du président de la République et du Premier ministre dans la police. Et ils en ont marre. Ça m'a obligé à changer, à réfléchir. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on croit que c'est mon devoir de faire ça? C'est inhumain. Vous vous rendez compte? Vous croyez que j'ai que ça à faire? De mon côté, moi, je pense que la question qui est posée est simple. Qu'est-ce qui se passe en France? Le nombre de prostituées, de gauche comme de droite, a été multiplié par 10 ces 5 dernières années, dans la police. Je pense que c'est juste. C'est une décision personnelle et je l'assume pleinement. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Le cœur de ma politique, c'est l'argent facile. Le racolage actif, global et total, sans respecter aucune des règles, ni aucun risque. Je vais même vous dire mieux, c'est un style de vie. Et à ceux qui me demandent d'ouvrir des maisons closes, que la France financera, je veux dire à ceux qui nous écoutent, c'est ce que nous allons faire. Et je pense que ça fait bien longtemps qu'on aurait dû le faire. Parce que ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'essaye de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je vais même vous dire mieux. Qu'est-ce que nous allons faire? On va truffer les autoroutes d'équipements technologiques modernes pour qu'il y ait 2 fois plus de morts sur les routes en France que chez les autres pays européens, par exemple l'Espagne ou par exemple l'Angleterre. C'est ce que nous allons faire. La police, c'est la police des petits caïds, l'école du crime. Je reconnais bien volontiers cela. Vous savez, bon, il faut que les Français comprennent, ça date de Vichy. Je pense que c'est juste. Le cœur de ma politique, c'est de ne pas respecter les droits de l'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous le dis, très simplement, c'est le règne de l'arbitraire. C'est une réalité aujourd'hui. La loi Sarkozy, elle conduit à la violence, elle conduit à l'intolérance, sans respecter aucune des règles. Ce qui fait que maintenant, je veux dire aux Français, de gauche comme de droite, il n'y a pas de place pour vous. Je vais même vous dire mieux. Je vais laisser moi aussi les banlieues devenir des zones de non-droit, où les trafiquants de drogue, où les gangs, où les bandes tiennent l'eau du pavé. On laisse faire tout. Les ravages de la violence, les ravages de la drogue, les ravages de la brutalité, ça n'a aucune importance. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi se draper dans sa vertu offensée? Je ne vois pas pourquoi je devrais m'excuser. Parce que ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. J'ai eu des hauts et des bas, beaucoup de bas. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je dit? J'ai le regret de constater que j'ai peur. C'est normal. C'est la drogue. C'est un problème. On me dit souvent, mais t'es pas fatigué avec tout ça? D'abord, je pense pas que je suis énervé. C'est la drogue. Je reconnais bien volontiers cela. Vous savez, c'est une décision personnelle et je l'assume pleinement. C'est pas pour m'amuser, c'est normal, c'est un style de vie. Non, parce que les mots ont un sens, voyez-vous. Et je voudrais qu'on m'explique au nom de quoi la drogue, ça vous bouffe la vie. Vous savez, la drogue, ça a toujours été, depuis ma plus jeune jeunesse, en quelque sorte, ça m'a beaucoup marqué. Il faut assumer. Je vais même vous dire mieux. Ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'excuser.
Radio Potu, il est 15h30, comme vient de nous l'annoncer l'église, et nous sommes toujours sur la place de l'église à Brulioles. On vient d'écouter le Sarko Skankin, un petit dub avec un montage des voix de Nicolas Sarkozy réalisé par Polymix, et la voix off des radiologues de Radio Béton, une radio libre de tour. Et justement, on va évoquer maintenant la politique de Nicolas Sarkozy, qui n'est pas forcément sa politique à lui, qui est en gros la politique sécuritaire qui accompagne l'économie libérale.
Voilà. Alors justement, on reprend une étude de la chancellerie qui a été révélée en début de semaine sur l'état de la surpopulation carcérale en France et pourquoi on en est là. Donc il nous explique d'abord que la population carcérale a un petit peu changé, notamment que les prisonniers certes sont plus nombreux, mais aussi plus violents et de plus en plus vieux. Alors on a toujours une image que ça se rajeunit, ça se rajeunit pas tant que ça en fait, pas dans les moyennes. Ils vont nous expliquer pourquoi. On nous explique qu'en 10 ans, la France a vu changer de façon radicale sa population carcérale. Donc, nous montre cette étude. Donc, ça date de ces 10 dernières années. Donc, vous imaginez, c'est pas simplement lié à un gouvernement de droite et à Sarkozy. Ça date de bien avant. Voilà. Alors, on nous explique qu'entre 1996 et 2006, par exemple, le nombre de détenus a progressé de 8% pour atteindre un peu, pour dépasser les 60 000 aujourd'hui. Alors, les premières politiques sécuritaires, c'est le milieu des années 70. On va dire qu'entre à partir de 75 jusqu'à 95, le nombre de détenus a doublé. Donc là, il y a là aussi un vrai régime sécuritaire. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, qui ont connu les années Giscard ou les choses comme ça, ils savent de quoi on parle quand on parle de régime sécuritaire. Hein, ça rigolait pas du tout. L'année 2001, en fait, ensuite, il y a eu 96-2001, une sorte d'exception, puisque la population carcérale a diminué pendant 5 ans, donc entre 96 et 2001, date aussi de l'embellie économique sous Jospin, et puis virement de tout le monde, notamment de Jospin en 2001, pour relancer la politique sécuritaire avec la loi de sécurité quotidienne et qui va nous remettre plein de gens en prison. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas la détention provisoire qui est responsable de cette hausse des effectifs, parce que la détention provisoire dont on abuse à tort et à travers en France, on en abuse depuis 30 ou 40 ans. Donc c'est pas ça qui justifie, c'est toujours inacceptable, mais c'est pas ça qui justifie, qui explique l'augmentation des chiffres. L'augmentation des chiffres... C'est avant tout le coup d'accélérateur donné à la justice expéditive que sont les comparutions immédiates où on se retrouve, on fait quelque chose, on fait un truc, on se fait arrêter. Deux jours après, on est en comparution immédiate et on prend une peine tout de suite et on fait 3 à 1 an de prison. Alors la comparution immédiate peut aller jusqu'à, je crois, 10 ans de prison, mais c'est souvent des très petites peines. Et donc finalement, on se retrouve d'un côté avec... plein de personnes qui font des petites peines en prison. En gros, un jour, on ira tous, hein, si ça continue comme ça, on y passera tous un moment ou un autre. Ensuite, de l'autre côté, on va dire, des peines, c'est les longues peines, et les longues peines augmentent de manière très importante, parce que ça a été multiplié par 3 en 10 ans, les peines de 20 à 30 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que en 81, quand on a supprimé la peine de mort, ça a fait un gros vide au départ, c'est-à-dire qu'on a supprimé ce truc horrible, on a remplacé par des détentions plus ou moins, enfin plutôt longues, et puis petit à petit, la peine de mort manquant à la politique sécuritaire, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on condamne à des peines de plus en plus longues pour transformer cette peine de mort immédiate qui avait lieu jusqu'à 81 en une peine de mort administrative et longue, c'est-à-dire qu'on enferme les gens jusqu'à qu'ils meurent en prison dans des souffrances qui peuvent être relativement atroces quand on pense aux prisonniers politiques français comme les gens d'Action Directe qui sont qui ont été dans des conditions totalement dignes d'un pays d'Amérique du Sud dans des aires dictatoriales. Donc voilà. Donc des chiffres qui sont assez inquiétants de la chancellerie, qui nous rappelle aussi que les peines alternatives à la prison, c'est-à-dire les libérations conditionnelles, les placements en extérieur, les semi-libertés, même les trucs à la mode comme le bracelet électronique, sont des alternatives ultra minoritaires, parce que c'est entre 4 et 6% des peines. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une phase d'enfermement. La seule solution aux problèmes liés à ceux qui sont condamnés par la justice, c'est l'enfermement. Donc voilà, on a un petit exemple de ce qui peut arriver du jour au lendemain quand on est dans la rue, dans une grande ville. Peut-être que c'est moins flagrant à Brouillol, en tout cas on l'espère. On a un exemple, c'est Karl. Karl, le dimanche 8 janvier, à 6h du mat, il rentre avec 4 copains. Ils rentrent chez lui, ils gardent d'abord leur voiture parce qu'ils vont chez un pote à Villeurbanne. Ils entendent des hurlements, donc ils se retournent, mais que se passe-t-il ? Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient 4 policiers, un véhicule de pompiers, dont un policier en train de tabasser une personne à terre. que fait Karl. Karl, sans trop regarder ce qui se passe d'ailleurs, sort son portable pour appeler leur pote en lui demandant l'adresse et le code exact de son immeuble. Là, un des policiers croit que Karl est en train de filmer ou de prendre des photos de leur intervention. Donc les policiers s'approchent, s'ensuit un contrôle d'identité, un petit peu chaud on va dire, une palpation. Une immobilisation violente, notamment de Karl qui avait toujours son téléphone à la main. Alors la mobilisation de Karl, c'est que le flic l'a projeté à terre. Donc Karl s'est explosé la tête contre le trottoir, cassant ses lunettes au passage. Il en sort avec la tête ensanglantée puisque l'arcade sonore saute, etc. Et puis finalement, donc il sera arrêté avec deux de ses collègues et emmené alors d'abord aux urgences, que quand même les policiers ont pensé que c'était mieux d'arriver avec un pansement plutôt que d'arriver avec la gueule en sang au commissariat, et ensuite en garde à vue. Alors Karl sera libéré à 17h le lendemain. Il va chez son médecin, il aura 36 jours d'arrêt suite à cette violence policière. Que fait Karl quelques jours après ? Il se dit, bon, deux jours après, il se dit, ben voilà, j'ai été victime d'une violence. Qu'est-ce qu'on fait quand on est victime d'une violence ? On va porter plainte. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre au commissariat et il dit, voilà, moi je voudrais porter plainte parce que j'ai été tabassé. Et par un policier. Et donc forcément, que fait le commissariat ? Ils ont refusé sa plainte. Ils ont dit, bah non, vous rigolez, on n'accepte pas. Par contre, on a un truc à vous dire, c'est qu'il y a une plainte déposée contre vous, du même policier, pour outrage, rébellion et violence sur agent de la force publique. Donc lui qui en avait pris plein la gueule, il se retrouve de l'autre côté à être accusé. Il y avait son procès. C'était le 21 juin, alors procès qui s'est déroulé plutôt pas mal, hein, a priori, puisque même les policiers qui n'avaient pas participé à son arrestation, qui étaient là pour s'occuper des premiers arrêtés, n'ont pas validé ce que pouvait dire le policier qui a porté plainte, qui disait qu'il s'était fait insulter, enfin des trucs comme ça. Personne n'a confirmé les dires du policier, ni le pompier, ni les autres policiers. Karl avait un casier vierge et le verdict est tombé le 5 juillet, il y a 3 jours. Karl a pris 3 mois de prison avec sursis, 200 euros d'amende et puis 400 et quelques euros de frais de justice à payer. Donc le procès, en gros, c'était X témoins, Karl, ses amis et les autres policiers contre un seul policier tenant ce propos-là, et ben c'est le policier qui a gagné. Donc voilà ce qui peut arriver à tout le monde dans cette justice de classe ou cette politique sécuritaire. Et on a un autre exemple aussi qui est arrivé à un militant syndical de la CNT qui participait à une action syndicale de destruction de champs de maïs transgéniques, de champs de betteraves transgéniques. Il se fait arrêter, il est amené à la gendarmerie de Saint-Martin-de-Valgalgues, c'est dans le Gard, et on lui demande de faire un prélèvement de son ADN, comme le stimule la loi Perben 2 du 9 mars 2004, qui soumet au prélèvement ADN toutes les personnes ayant attenté au bien des personnes, c'est-à-dire en gros 40% des délits en France. Alors, il a attenté au bien de personne, puisque pour l'instant il est juste arrêté, il n'est pas condamné, mais on veut lui prendre son ADN. Donc il refuse, en estimant que c'est inadmissible qu'un militant syndical, dans le cadre d'une action syndicale, puisse être poursuivi comme ça par la justice et qu'on lui prenne son ADN. Donc il refuse et il est appelé à comparaître au tribunal le 25 août pour refus d'obtempérer. Donc il risque une quinzaine de milliers d'euros d'amende. C'est juste pour nous rappeler que ce genre de choses peut vous arriver aussi, puisque des militants, enfin des gens qui étaient avec les faucheurs d'OGM à Clermont-Ferrand en juillet 2005 ont été aussi arrêtés. Ils ont tous été fichés et on leur a tous pris leur ADN, et pourtant dedans 5 personnes seront déclarées innocentes et mises hors de cause, et ils sont dans les fichiers. Et on entre dans le vif du débat, c'est-à-dire que est en train de se créer en France de nombreux fichiers, dont des fichiers ADN, permettant de ficher le plus en plus la population, l'objectif étant d'avoir toute la population. Alors on commence avec les gens qui sont interpellés dans le cadre d'actions syndicales, après d'actions illégales, et aussi finalement les gens qui sont témoins ou qui sont accusés à tort, et on s'en fout qu'ils soient innocents ou pas, on garde leur ADN. Donc c'est le début de la mise en place de cette politique sécuritaire. Qui en est à ses premiers pas au niveau de l'ADN, mais c'est des choses qui vont être amenées à se développer. Et on va rentrer donc dans le vif du sujet de ce, ce POTU Info qui est donc les politiques sécuritaires et le contrôle social. Et on va parler un peu de la vidéosurveillance puisque ça fait partie avec la biométrie des systèmes scientifiques mis en place pour contrôler et surveiller la population. Alors je vous donne un petit exemple puisque là on est à Brulhiol et vous ne vous rendez pas compte de ce que peut être la vie d'un Lyonnais. Mais si vous êtes à Lyon par exemple, que vous prenez votre voiture, vous décidez d'aller au cinéma à Lyon, qu'est-ce qui vous arrive? Vous arrivez sur le périphérique à Lyon et là une caméra commence à vous filmer car dès le périphérique à Lyon vous êtes filmé, donc on peut vous suivre. Ensuite vous arrêtez à un parc relais des transports en commun lyonnais puisque vous ne pouvez pas rentrer dans la ville avec la voiture, c'est un peu compliqué pour se garer, donc vous arrêtez dans un parc relais TCL et vous prenez le métro. Comme vous venez souvent, vous avez une carte TCL, une carte du métro, vous la validez et tac, les TCL ont dans un fichier, ils savent que vous venez de rentrer dans le métro, donc hop, on peut vous suivre à partir de là où c'est que vous êtes dans le métro. Ensuite dans le métro et maintenant dans les bus, il y a des caméras de vidéosurveillance, donc les TCL peuvent vous suivre, savoir où vous allez. Vous rentrez dans un métro, hop, ils peuvent guetter votre sortie. Bon, vous arrivez dans le centre-ville, vous dites « je vais aller à l'air libre, je vais arrêter enfin d'être suivi par des yeux là derrière des écrans ». Vous sortez dans une rue du centre-ville à Lyon et oh, vous levez les yeux et qu'est-ce que vous voyez? Oh non, encore une caméra. Et oui, maintenant un autre réseau de vidéosurveillance se met en place et vous prend en charge, enfin vous suit en tout cas. Vous arrivez au cinéma, enfin vous dites « je vais rentrer dans la salle de cinéma, personne ne va savoir et tout ». Vous payez en carte bleue, tac, nouveau fichage, cette fois-ci à votre banque. En même temps, vous avez un appel sur votre téléphone, vous répondez, tac, le réseau vous localise et vous savez, et tout le monde, enfin les gens du réseau savent où vous êtes. Et puis voilà, alors ça, bon, on peut continuer comme ça à l'infini. En gros, sur une chose comme ça, enfin un trajet, une vie quotidienne à Lyon, on est surveillé à peu près partout, tout ce qu'on fait, notamment par les caméras, par le jeu des cartes bleues maintenant, des cartes d'abonnement, etc. Alors, vous allez me dire, parce que c'est la réponse de certains, mais si vous faites rien, si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est pas grave qu'on vous regarde et qu'on vous surveille. Alors, premièrement, on a quand même le droit d'avoir une certaine intimité. Hein, bientôt, pour avoir de l'intimité, il faudra rentrer chez soi et fermer les volets. Quoi.
Ça, faut s'enfermer, faut ça.
Oui. Donc on a quand même le droit de ne pas être surveillé, même si on n'a rien à se reprocher. Ensuite, c'est facile de passer de la période de la personne de type « je n'ai rien à me reprocher » à « la loi est contre moi ». Et pourquoi ? Parce que beaucoup de choses sont criminalisées maintenant. Alors par exemple, quand on fait des manifs, autrefois les manifs étaient assez facilement autorisés, enfin autrefois, il y a 4-5 ans, et puis là on commence à avoir des manifs interdites. Donc quand vous manifestez, vous n'avez pas l'autorisation, hop, vous êtes déjà hors la loi. Ensuite, quand on fait des actions syndicales, vous êtes toujours hors la loi, quasiment. Donc, pas quasiment, mais souvent. Ensuite, vous êtes amené à défendre, par exemple, des sans-papiers, à accueillir des enfants sans-papiers. Quand vous faites une manif dans la rue avec ça, pour cette raison-là, voilà, les RG plus ces caméras-là vous filment, puisque vous êtes hors la loi, puisque vous n'avez pas le droit de surveiller, d'aider les enfants sans-papiers, puisque c'est hors la loi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et ça, c'est en l'état actuel des lois. Mais on sait tous que les lois changent, et puis d'un seul coup, on pourrait interdire plein de choses, et on sent que ça pourrait venir. On pourrait interdire aux gens, on sait que c'est interdit par exemple de se promener torse nu, on pourrait interdire aux gens, aux filles de mettre des jupes, et on pourrait maintenant le contrôler. Autrefois c'était moins contrôlable, on pourrait interdire aux personnes homo de se tenir par la main, on pourrait interdire plein de choses. Donc voilà, le truc c'est qu'on a installé tellement de systèmes sécuritaires, technologiques, et on en installe tellement, que le jour où les règles démocratiques changent, ça va être dur de lutter contre, parce qu'il va falloir en casser du matériel pour arriver à retrouver un espace de liberté tel qu'on avait pu l'avoir autrefois. Donc voilà. Alors pour rappeler quand même que s'il n'y a pas que la vidéosurveillance, il y a pas mal de choses.
La biométrie, c'est quand ça se diffère un peu de tout ce qui est technologie. C'est plus c'est votre corps qui est carrément qui sert de support de contrôle en fait. Vous allez avoir les cartes d'identité où on va enregistrer vos données biométriques, c'est-à-dire la rétine oculaire, les empreintes digitales. Donc c'est pas encore obligatoire, mais d'ici 4-5 ans, ça va pas tarder à l'être. Et vous devrez, enregistrer vos données. Et plus tard, quand vous passerez dans la rue, vous serez peut-être étonné, mais il y aura des bornes qui pourront savoir, grâce à vos rétines, où vous êtes. Donc, un portable, on peut s'en débarrasser, mais vos yeux et vos mains, c'est plus compliqué.
Voilà. Il y a d'ailleurs un groupe de regroupement d'industrie défendant la biométrie, le GIXEL, qui a fait un petit livre bleu pour expliquer au gouvernement comment faire accepter la biométrie. Il faut quand même savoir que le contrôle social comme ça est historiquement assez peu accepté par une partie de la population française. On a une tradition de résistance quand même en France. Et alors ils ont trouvé un moyen, et le meilleur moyen pour eux, enfin il y a deux gros moyens en fait, c'est un, il faut habituer les enfants très tôt à ces systèmes-là, donc on implante des systèmes totalement anodins, biométriques, dans les écoles maternelles et dans les collèges, voire dans les lycées, pour que voilà, on rentre à la cantine, on a l'habitude de mettre sa carte, pour rentrer dans l'école on a l'habitude de mettre sa carte, etc., de mettre sa main ou des choses comme ça. Et puis le deuxième moyen qu'ils ont trouvé, c'est écrit noir sur blanc dans ce rapport, c'est d'introduire des éléments biométriques dans les biens de consommation de manière à les améliorer, mais pour faire accepter. Par exemple, on va transformer le téléphone en quelque chose d'intelligent, ou quand on se promènera, on aura des infos qui vont arriver sur le téléphone pour nous dire où il y a des bars, etc. Et ce qui permet en même temps à des gens de nous suivre en permanence, de savoir où on est, mais on va nous le vendre en précisant que c'est intéressant pour le consommateur parce qu'on pourra aller un peu on va nous aider à aller au resto, aller au cinéma. Donc la biométrie, tous ces nouveaux moyens, il faut faire attention parce que souvent c'est présenté comme des éléments qui font partie du progrès technologique, mais qui sont implantés non pas pour le progrès technologique, mais qui sont implantés pour nous faire accepter ce contrôle permanent jusqu'à nous priver totalement de liberté.
Et la liberté est chantée par Georges Brassens.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excite les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hip 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 hourra. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, m'attrape à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniant, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur n'en avait pas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur il n'en avait pas.
Vous êtes bien sûr Radio Potus en 107.5 et dans les Potus Info, on vient d'entendre Georges Brassens avec le morceau au marché de Brive-la-Gaillarde. Georges Brassens qui fait pratiquement l'unanimité aujourd'hui en France, on considère comme un des très grands de la chanson française. Et on a pu se rendre compte dans cette chanson qu'il incite quand même à taper sur la police. Alors à l'époque,
il incite à tuer les flics puisqu'elles disent qu'elles préfèrent les flics sous la forme de Maccabée. Donc ça va quand même très très loin.
Donc voilà, ce morceau a été censuré à l'époque et on peut faire un parallèle intéressant avec, avec certains groupes aujourd'hui qui sont censurés comme, comme des groupes de rap. Je pense à La Rumeur ou à Monsieur R qui à travers leurs chansons ont dénoncé des crimes de la police et les crimes de l'État français et ils ont été poursuivis directement par le ministère de l'Intérieur devant la justice. Certains députés UMP ont même demandé à interdire ces groupes. Donc voilà, pour faire le petit parallèle, peut-être que dans 50 ans, ces groupes de rap feront partie des grands de l'histoire de la musique française. Alors, on a fait un petit bilan de tout ce qui s'est passé, de toutes les lois sécuritaires qui sont passées depuis, depuis une petite dizaine d'années maintenant. On va observer avec Eva ce qui nous attend un petit peu dans le futur.
Oui, alors en fait, vous savez tous que depuis 2002, il y a de nombreux textes sécuritaires qui ont été pondus par, par Sarko, Perben, la loi 2002, il y en a plein. Et il y en a une belle qui va arriver et qui a été validée le 24 mai dernier par le comité interministériel trôné par De Villepin. Et ça s'appelle le nouveau projet de loi sur la prévention de la délinquance. Donc c'est un concentré sécuritaire qui est assez effrayant parce qu'il jette les bases d'un État totalitaire par différents aspects. Totalitaire, ça peut peut-être vous paraître un peu fort, mais vous allez voir pourquoi petit à petit on peut utiliser ce mot. Il est inquiétant au sens où il considère toute personne en difficulté sociale, matérielle ou éducative comme délinquante potentielle. Ces critères de difficulté désignés sont très très arbitraires. Par exemple, vous êtes d'un milieu populaire, vous avez un interdit bancaire, vous êtes peu diplômé et vous parlez une langue étrangère, bon, pas n'importe quel pays, vous imaginez bien. Vous êtes suspecté d'être un délinquant en puissance, et vos enfants et vos petits-enfants aussi. Voilà. Et si depuis quelques années on assiste à des dispositifs coercitifs des gestions des populations en difficulté, ce projet de loi qui risque de passer en septembre affirme pour la première fois depuis la période 39-45 un projet de société sécuritaire qui est validé par des faux prétextes comme l'augmentation de la délinquance juvénile. Alors, il est totalitaire parce qu'il modifie l'ensemble des textes de loi, comme par exemple le code pénal, le code civil, le code de la famille et de l'action sociale, le code de la santé, le code des procédures pénales. Enfin, je ne vais pas tous les citer, il modifie une grande majorité des codes. Et celui qui est plus important et qui est attaqué de plein fouet, c'est l'ordonnance de 1945, qui conçoit les mineurs acteurs d'infraction comme enfants en danger. Et aujourd'hui, avec ce projet de loi qui va passer, les mineurs vont devenir coupables vont devenir dangereux. Il va falloir les écarter de la société. Voilà. Mais plus largement, il s'agit de considérer les difficultés des individus comme le résultat d'une faille et d'une fragilité individuelle à laquelle il faudrait remédier. Cette pénalisation de la pauvreté se fait au mépris d'une solidarité sociale. Et ce système de pensée est donc, il remet en question l'état social qui a été construit depuis X années, les missions du service public, et du fait même que les difficultés sociales sont stigmatisées sous le coup de la délinquance. Voilà. Par exemple, pour vous donner un exemple des modifications que ça va induire, c'est un juge ne va plus juger par rapport à un acte ou par rapport à une infraction prise dans un certain contexte, mais seulement par un acte, et ils vont instaurer une espèce de peine minimum. Vous allez voler par exemple, ça va être un an, je dis un exemple comme ça, ça va être un an minimum. Donc c'est très inquiétant pour le rôle de la justice parce qu'on va plus du tout prendre en considération le contexte dans lequel l'acte délictueux a été fait.
On imagine très bien qu'une maman se retrouve en chômage, voilà, N'arrivant pas à trouver de travail, ayant deux enfants, le papa étant parti par exemple, donc un cas très, très, très concret, il y a déjà eu ça en banlieue lyonnaise, donc c'est pour ça que je cite ça, qui n'a plus du tout d'argent parce que tout coûte cher et qu'il faut payer un loyer et elle n'a plus de moyens de nourrir ses enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, plutôt que de laisser mourir ses enfants de faim, elle va au supermarché, elle vole, elle se fait attraper. Et là, les circonstances atténuantes, avec ce projet de loi, ces difficultés sociales, le fait que voilà, qu'il y a une situation de chômage, eh ben, c'est plus pris en compte.
Voilà, bon, c'est pas encore mis en place, mais avec ce projet de loi, ça risque de se le faire. Donc, il n'y a pas que les juges qui sont touchés. Enfin, il y a plein de métiers, notamment les travailleurs sociaux, qui à la base sont censés accompagner les populations dans leurs difficultés, à leur permettre d'accéder à des droits auxquels ils ne peuvent pas accéder. Il est prévu clairement qu'ils participent au repérage et au contrôle des usagers. Voilà, donc ils se sont mobilisés depuis 2002, mais ils sont assez seuls. Voilà. Alors, plus concrètement, je vais essayer de vous présenter un peu comment elle se décline, cette loi. Il y a 6 points importants qu'il faut retenir, en fait. Donc, la principale chose, c'est que le maire des communes vont devenir le pivot central du projet de loi sur la délinquance. Il devient le coordinateur et l'animateur de ce projet sur la commune. Il doit être informé de toute information des professionnels au bénéfice des personnes qui sont en difficulté. L'inspecteur d'académie doit donner une liste d'enfants qui ont reçu un avertissement au maire. Les maires dans les communes de 10 000 habitants doivent mettre aussi en place un conseil, enfin à partir de 10 000 habitants, doivent mettre en place un conseil pour le droit et les devoirs des familles. Donc ils vont se réunir à peu près tous les mois et proposer, donner des leçons d'éducation aux familles. À la mairie sera déballer votre vie privée si vous avez un enfant qui va chez l'orthophoniste ou c'est assez monstrueux comme projet. Et il va vous proposer gentiment un contrat de responsabilité parentale pour vous aider. Enfin plus comme c'est sous couvert d'une sanction en fait plus qu'une aide. Et si jamais vous refusez, il peut mettre sous tutelle vos allocations familiales. Donc c'est la première fois là qu'on a vraiment un virement. Les tutelles, normalement, c'est fait pour accompagner, aider, et là, c'est une sanction. Donc on a vraiment un revirement complet du social. Et il a plein d'autres pouvoirs, mais j'essaie de concentrer les principaux. Le maire a le pouvoir aussi d'hospitalisation d'office avec un seul certificat médical, chose qu'il n'avait pas avant. Voilà, donc c'est assez inquiétant en ce qui concerne les pouvoirs du maire. Mais on verra plus tard qu'ils ne sont pas tous d'accord. Le deuxième point important, c'est que, comme vous le disait Laurent, il y a déjà des fichiers qui sont créés pour ficher la population dans certains sens. Mais là, il y en a 4 autres qui vont être créés qui mettent en pratique en fait les théories comportementalistes qui sont un peu diffuses en ce moment sur vous avez des gènes de la délinquance, enfin je caricature, mais vous aurez des gènes de la délinquance ou une situation qui fait que vous serez des problèmes de délinquants. Donc il y aura le fichier municipal du Conseil pour les droits et les devoirs de la famille, un fichier de versement des prestations familiales, donc vous touchez des aides de la CAF, vous êtes fiché. Bon, vous êtes déjà fiché en soi, mais là c'est le maire qui va tout recenser. Un fichier qui établira le suivi sanitaire des élèves et des étudiants donc pendant toute la scolarité, de la maternelle jusqu'à la fac. Et un fichier mis en place par le ministère de la Santé concernant les personnes hospitalisées, et ça c'est pareil que pour les étudiants et l'école. Voilà. Le troisième point qui est important, c'est au niveau de l'aménagement urbain. Chaque construction publique ou tout aménagement urbain devra établir une étude de sécurité avant d'établir les plans de construction. Et ils imposent la vidéosurveillance, les digicodes dans les bâtiments.
Voilà. Ils vont arriver à faire un truc incroyable et on connaît bien dans un quartier qu'on fréquente pas mal à Lyon, qui est les pentes de la Croix-Rousse, ils vont obliger à faire ce qui s'installe donc maintenant, notamment dans ce quartier, c'est-à-dire des digicodes partout, plus aucune entrée d'immeuble accessible sans code, sans digicode, sans clé. Et si on se rappelle de l'histoire par exemple de ce quartier qui est symptomatique de la résistance à l'occupation allemande, où il y avait des traboules, on pouvait passer d'un immeuble à l'autre, et c'est grâce à ça que les résistants pouvaient fuir les nazis et les collabos français. Et ben ça, grâce à l'instauration de ces lois qui vont obliger l'installation de digicodes et de systèmes sécuritaires, la résistance à la prochaine dictature, on va dire, ne pourra plus exister ou sera très très difficile, parce qu'il va falloir trouver de nouvelles formes pour échapper au contrôle qui est mis en place par cette nouvelle loi et par ces nouvelles lois.
La quatrième chose de ce projet de loi qu'on peut retenir qui est important, alors là attention ça fait peur, c'est la création du service volontaire citoyen de la police nationale. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose ? Bah, on peut l'apparenter à une milice en fait, parce que c'est basé sur le volontariat des jeunes de moins de 17 ans qui s'engagent pour 5 ans pour le service de la police et qui bénéficieront davantage pour des concours administratifs, pour leurs études. Et on trouve que quand même ça ressemble, c'est un petit air de Vichy et c'est un peu inquiétant, donc à voir si ça va se faire. On va laisser sonner. Donc bien évidemment en plus, le cinquième point c'est que les pouvoirs de la police s'étendent notamment dans leur pouvoir de perquisition, dans leur intervention dans les lieux publics. Voilà. Et le sixième point très important, c'est la remise en cause donc, de l'ordonnance de 45 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il s'agit d'instaurer une procédure pénale pour les moins de 13 ans, chose qui n'existait pas avant. Dans ce projet de loi est créé ce qu'ils appellent les mesures d'activité de jour, qui n'est autre que des travaux d'intérêt généraux, à l'égard des mineurs de moins de 13 ans. Alors que c'est normalement, ça concerne que les majeurs. Et il prévoit l'incarcération des mineurs de moins de 16 ans. Et même jusqu'à... J'ai entendu Sarko qui disait qu'il aurait bien aimé que les enfants de 8 ans puissent aller en prison. Et ça tombe bien, M. Perben a fait construire depuis 2002 des EPM, des établissements pénitentiaires pour mineurs. Il y en a 7 en construction en France, dont un à mes yeux à côté de Lyon. Ils vont il y a 400 places qui sont prévues en plus des 900 incarcérations qui existent pour les mineurs dans les quartiers pour mineurs, dans les prisons pour majeurs. Voilà, et donc ce n'est pas pour améliorer leurs conditions d'incarcération, c'est bien en plus. Et c'est ça qui est inquiétant et ça fait écho aux émeutes de novembre. Il a bien fallu leur trouver une place à ces zouzous, donc voilà.
C'est le retour des maisons de redressement qui avaient été fermées à un moment parce que le bilan était super négatif, que l'enfermement des mineurs c'était plutôt une école du banditisme, puisque effectivement chacun avec ses petites expériences et ses 4 heures, ça sonne. Donc voilà, c'est le retour des maisons de redressement. Elles avaient été fermées parce qu'effectivement le bilan était vraiment jamais positif. Et on revient en arrière comme si le passé et les expériences précédentes n'avaient pas existé.
Et puis c'est surtout fait sans aucune... Enfin, on a bien compris que l'enfermement des mineurs, ça servait à rien. Mais ils ont fait ça, ils ont décidé ça sans consulter les gens qui font partie de l'éducatif, l'éducation nationale et autres. Et voilà, donc ça c'est assez inquiétant. C'est vraiment un retour, comme le disait Laurent, sur des choses qui ont été construites et réfléchies depuis 50 ans. Donc il va falloir se mobiliser. Voilà. Pour conclure, on peut dire que ce projet de loi, il est dangereux parce que il remplace l'accompagnement social par un contrôle tous azimuts des personnes suspectées de déviance. Il place au rang d'élite de la nation une police d'ordre public qui embrigade la jeunesse pour la former. Voilà, les missions éducatives deviennent des procédés de redressement. Et surtout, ils instaurent la vidéosurveillance et la peur comme seul mode de relation possible entre les citoyens au profit d'un État décentralisé, on peut dire en féodalité, quoi. On revient un peu au Moyen-Âge, le maire... On va avoir des seigneurs un peu partout qui vont contrôler leur région. Voilà. Juste, est-ce que j'ai le temps de faire passer deux infos ? Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ces lois, ces textes qui sont assez intéressants à lire, vous pouvez aller sur le site www.abri.org/antidélation.com. Voilà, juste aussi pour vous dire que les maires, il y en a quelques-uns qui s'organisent et qui sont contre ce qui va être en place. Voilà. Et donc il y a des travailleurs sociaux qui luttent depuis 2002 aussi. Si ça vous intéresse, vous tapez collectif collectif unitaire de travailleurs sociaux et vous aurez des informations par rapport aux manifestations qui vont se mettre en place. Et si vous êtes près de mes yeux et que vous voulez, ou même si vous êtes dans la région, vous pouvez venir participer aux actions contre les prisons pour mineurs. On se réunit le 5 septembre au collectif EOCUL, voilà, 44 rue Burdeau dans le premier à Lyon.
D'accord.
Voilà.
Voilà, alors on avait prévu de parler des nanotechnologies qui font partie du futur du contrôle social avec la création de caméras microscopiques ou de choses comme ça. On n'aura pas le temps, mais jetez un œil sur le site internet qui s'appelle ogn.org pour voilà, voir ce qui se prépare au niveau technologique, puisqu'il y a un contrôle qui va... Enfin, les inventions technologiques risquent de faire passer le contrôle à une phase de généralisation complète. Puis on voulait revenir pour terminer ce Potu Info sur une info un peu locale, parce qu'on a été beaucoup sur l'international, beaucoup sur le national avec ces lois sécuritaires. Il faut quand même revenir sur le fait divers d'hier quand même, parce qu'il faut quand même le rappeler. Il y a eu une sorte d'accident. Alors on a eu plusieurs analyses. Vraisemblablement c'est l'histoire d'une camionnette qu'on appellerait Ginette, allez savoir pourquoi elle porte ce nom-là, ce joli nom, qui rentrerait en contact avec Monsieur le Parasol, Monsieur le Parasol de la Buvette. Donc est-ce que c'est une histoire d'amour? On le sait pas bien. En tout cas, une dame était un petit peu blessée, elle a eu très très peur aussi. Finalement elle n'aura pas grand chose, mais tout le monde a paniqué. Alors ce matin sur l'antenne de Radio Potu 107.5, une théorie est apparue sur une soi-disant problème de hauteur de parasol. Théorie qui ne semble pas confirmée. Par contre, l'emprise de l'alcool et de la drogue sur le conducteur est peut-être possible, mais on n'a pas pu faire d'analyse, ça on ne sait pas bien, ça demande à être confirmé. Par contre, on a reçu effectivement une déclaration officielle du mouvement autonomiste Brûle-Loi situé sur le Mont Potu, qui a revendiqué cet attentat. Alors bon, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Alors on ne sait pas bien encore si c'est un attentat ou un accident. En tout cas, des sismologues nous ont signalé quand même un choc juste avant que le contact se fasse entre le parasol et la Ginette, la voiture. Donc peut-être qu'il y aurait eu un micro tremblement de terre qui aurait fait décaler la Ginette et qui expliquerait vraiment le contact avec le parasol. Et moi j'ai envie de retenir ça, c'est un accident lié à une petite micro secousse sous la Ginette, le conducteur n'y étant pour rien.
Et ben c'est la fin de cette Potu Info. Merci Eva, merci Eco Laurent. Vous pouvez réécouter ces émissions sur radiopotu.free.fr, potu avec un H, ce qui fait radiopotu.free.fr.
Radio Potu 107.5.